Rebonjour, donc on se retrouve pour Lady Bird cette fois-ci. Avant de commencer, puisqu'on va parler de ce sujet aujourd'hui, je vous ai amené un exemplaire d'un Rokirama qui est sur les teen movies et sur lequel il y a en couverture, et bon, c'est un magazine dans lequel j'écris, mais en tout cas celui-là, il est entièrement consacré aux teen movies et la couverture, c'est Breakfast Club de John Hughes. On va parler un peu de l'influence de John Hughes sur Lady Bird. Voilà, il était en effet dans une sélection de dessins apprentis au cinéma. Donc, je sais pas si c'était une bonne découverte ou redécouverte du film sur grand écran. C'est toujours autre chose que de le voir chez soi, quand même. Donc, c'est un saut stylistique, enfin, tous les termes, quoi, par rapport à La Nuit des Femmes. On peut quand même faire des petits rapprochements entre les deux films, même s'ils n'ont pas grand-chose à voir, a priori. Une des questions qu'on va aborder et que j'ai pas vraiment soulevée avec La Nuit des Femmes, mais justement ça tombe bien qu'on parle de Lady Bird, c'est est-ce que ce sont des films de femmes ? Voilà, question un peu retorte de, enfin moi-même je n'ai pas franchement la réponse. Qu'est-ce qu'un film de femmes ? Qu'est-ce qui est défini comme un film de femmes ? Etc. Greta Gerwig, donc la réalisatrice de Lady Bird que voici, donc sur le tournage du film, comme Kinuo Tanaka. À l'origine, c'est une actrice, donc une actrice assez excentrique qui vient d'un courant qu'on appelle le mumblecore. Mumblecore, c'est une catégorie du cinéma indépendant américain plutôt new-yorkais, puisque Greta Gerwig, comme sa protagoniste, a fait ses études à New York et a développé, on va dire, son art à New York. Et donc, le mumblecore, c'est vraiment des films à très petit budget, vraiment axés sur le développement des personnages, avec beaucoup de dialogues, une esthétique un peu cracra des fois. Bon, voilà, c'est tout un courant du cinéma indépendant américain que je daterai des années 2010 à peu près. Donc, finalement, Lady Bird s'inscrit dans cette lignée stylistique. Et depuis, Greta Gerwig, vous la connaissez très sûrement d'ailleurs, parce qu'elle est devenue une des personnalités les plus en vogue à Hollywood depuis qu'elle a réalisé Barbie. Barbie, c'est son dernier film en date, qui date de 2023, et qui est un film de commande où en fait, elle a vraiment réalisé un blockbuster qui a été produit par Margot Robbie, l'actrice qui joue Barbie dans le film. Et... donc un film promotionnel pour la poupée Mattel, même si elle y a insufflé un certain esprit critique. Donc, si vous avez vu le film, vous comprendrez de quoi je parle. Mais en tout cas, sujet un peu tatillon que le film Barbie, on y reviendra un petit peu. Mais bon. Voilà, en tout cas, la carrière de Greta Gerwig. Et entre Lady Bird et Barbie, elle a réalisé une adaptation des quatre filles du Dr. March, qui s'appelle « Les filles du Dr. March ». Voilà, mais elle a vraiment réalisé un an après Lady Bird. Lady Bird, c'est un film semi-autobiographique, puisque Gerwig s'est librement inspiré de sa propre adolescence à Sacramento. Donc vraiment, la ville de Sacramento est centrale au déroulement du récit. Elle s'est aussi appuyée sur les écrits de Joan Didion, donc une poétesse qui a beaucoup écrit sur Sacramento. Bon, voilà les infos du film, mais je pense que vous les avez. Lady Bird, qui est sorti en 2017. Et le film s'ouvre sur une citation de la poète Joan Didion, hein, « Quiconque parle d'hédonisme californien n'a jamais passé Noël à Sacramento ». Il y a une fameuse courte séquence de Noël au pied de l'arbre, dans le salon familial, quoi, qui est assez cocasse. Toujours par rapport au fait que Gerwig s'appuie sur ses propres souvenirs, la photographie du film va dans ce sens. C'est-à-dire que c'est une photographie qui est très chaleureuse, presque ouatée, accueillante. À la fin du film notamment, il y a beaucoup de couchers de soleil, de plans de la ville de Sacramento. Enfin, c'est une photographie que je qualifierais de nostalgique, comme le film dans son ensemble. D'ailleurs, en fait, elle aurait voulu tourner en pellicule, elle ne l'a pas pu, donc elle a tourné en numérique et puis en post-production, elle a rajouté du grain, une vibration qui donne l'impression que c'est un film tourné en pellicule. Concernant le récit, bon, vous avez très bien compris que c'est un récit d'adolescence, ou plutôt, c'est L'histoire se déroule à l'âge charnière entre l'adolescence et le début de l'âge adulte, sachant qu'aux États-Unis, les lycéennes, les lycéens ont un an de plus. Enfin, leur terminale se déroule quand ils ont 18... Enfin, ils en sortent en général à 19 ans. Donc là, on comprend qu'elle a peut-être un an d'avance. Mais voilà. Et puis ensuite, s'ils peuvent, ils vont à l'université. S'ils peuvent, hein, j'appuie sur ça, puisque... C'est un des sujets de Lady Bird, c'est l'accessibilité aux études supérieures. Et comme c'est un film sur l'adolescence qui est empreinte au teen movie, mais on va un petit peu plus développer sur ça plus tard. Et comme tout bon teen movie, il y a ces rituels adolescents, notamment la remise de diplôme, le bal de promo, voilà, tous ces rituels qu'on a vus maintes et maintes fois dans des teen movies américains. On y reviendra un petit peu... plus précisément. Sauf que tous ces rituels adolescents se déroulent dans un contexte quelque peu anxiogène, incertain. Le récit est situé en 2003. Donc le film est tourné en 2017. Le récit est situé en 2003, post-attentat du 11 septembre, tuerie de Columbine. Bon, voilà, on imagine un peu le contexte. Et surtout, invasion de l'Irak par l'armée états-unienne. Il y a deux séquences pendant lesquelles Lady Bird regarde sur un écran de télévision des informations concernant l'Irak. Elle est, c'est comme si elle était assommée, elle est allongée sur le canapé, comme assommée par le poids du monde et des nouvelles du monde. Et, c'est quelque chose que je trouve très beau dans ce film, c'est le fait que c'est la manière dont il résonne avec aujourd'hui. Comment les adolescents à n'importe quelle époque se sentent envahis par la noirceur du monde et presque, enfin, qui viennent les stopper dans leur élan, dans leur capacité à se projeter dans l'avenir, quoi. Voilà, donc ces deux scènes assez subtiles dans le film, sachant que le montage de Lady Bird fait en sorte que l'on n'ait accès qu'à des petites tranches de vie. Qui s'enchaînent les unes les autres avec un montage sonore qui anticipe l'arrivée de l'image à chaque fois. Donc il y a des transitions très naturelles comme ça. Toutes les scènes sont de l'ordre du quotidien, du réel. Bon, ça, c'est un parallèle qu'on peut faire avec La Nuit des Femmes, c'est cette volonté de filmer le réel, enfin de retranscrire le réel, en fait, enfin de retranscrire cet aspect quotidien. Voilà, enfin, par rapport au contexte, rien de plus à dire, si ce n'est qu'on comprend que ça a un impact très fort sur les angoisses à la fois de Lady Bird et de ses parents, surtout de sa mère. Et concernant la mise en scène de l'adolescence, Greta Gerwig, elle retravaille le teen movie, elle retravaille les codes du teen movie. En cherchant un traitement réaliste. Donc, par exemple, au niveau du casting, elle se tourne donc vers Saoirse Ronan, qui est l'actrice principale du film. Elle refuse de lui camoufler ses cicatrices d'acné. La meilleure amie de Lady Bird, Julie, est en surpoids. Enfin, en fait, ce sont des vrais physiques, quoi, des physiques authentiques d'adolescentes. De cette sorte, elle s'éloigne des clichés hollywoodiens du genre. Enfin, quand on pense vraiment teen movie traditionnel, on imagine des adolescents bellâtres, un petit peu trop vieux pour jouer des adolescents généralement, et blancs de manière, en général. Donc en tout cas, c'est un film qui plutôt se reconnecte au réel. Et elle met en scène donc les affres de l'adolescence par le biais de scènes banales qui sont plutôt insouciantes. Mais derrière ce vernis de l'insouciance, il y a une réalité plus mélancolique, on va dire. Donc là, c'est un plan où Lady Bird serre dans ses bras son ex-petit copain Danny qui fait son coming out. Enfin, elle l'a surpris auparavant, mais en tout cas, là, il fait clairement son coming out auprès d'elle. Et donc, dans ces affres de l'adolescence, il y a les rencontres. Amoureuse. Sauf qu'une fois de plus, là où Gerwig elle fait un pas de côté par rapport aux teen movies traditionnels, c'est que normalement, la concrétisation amoureuse, sexuelle, fait partie intégrante, constitue le noyau d'un teen movie, quoi. C'est-à-dire que c'est généralement la quête, c'est de se dépuceler avant d'aller d'entrer à l'université, hein, dans un teen movie classique. Sauf que là, pas du tout. En fait, c'est limite, d'ailleurs, anecdotique, hein, la scène où... où Lady Bird a sa première expérience sexuelle avec Kyle. D'ailleurs, elle le dit plus tard, c'est assez décevant. Et puis pareil, elle arrive à... Enfin, ces deux amoureux, elle les rencontre assez rapidement. Tout se concrétise assez fluidement, quoi. Et puis, Garouk n'en fait pas tout un sujet. Ce qui compte le plus, en fait, dans ce récit, c'est l'amitié féminine avec Julie. Bon, voilà, Kyle, puisque... l'exploit de la première fois est vite, passé par la déception liée au mensonge de Kyle. D'ailleurs, donc ce couple, Timothée Chalamet et Saoirse Ronan, a été reformé dans les filles du Dr. March. Ouais, si vous voulez regarder le film, les deux se répondent pas mal en miroir. Je dirais pas que c'est un teen movie, les filles du Dr. March, mais c'est un film sur... l'adolescence, le début de l'âge adulte, les choix qu'on fait. Après là, c'est dans une. Enfin, il y a plusieurs personnages féminins qui sont sœurs, alors que là, elle est plus ou moins seule. Mais voilà, il y a vraiment plein de liens à tirer entre les deux films. Et donc, c'est la relation amicale entre Julie et Lady Bird qui importe le plus à Greta Garwick dans le film. C'est d'ailleurs avec Julie que Lady Bird ira au bal de promo à la fin. C'est avec elle qu'elle se dispute, comme dans une comédie romantique. En fait, il y a le traditionnel passage de la dispute et la réconciliation à la fin. Et, c'est assez fort que Garwick décentralise l'intrigue amoureuse, en plus hétérosexuelle, et replace l'amitié au centre de tout, surtout de ses préoccupations adolescentes. Et il y a aussi l'amertume de la fin de l'amitié. On le comprend. Lors de le dernier dialogue entre Julie et Lady Bird sur cette espèce de réplique miniature du Golden Gate Bridge de San Francisco, là. Et on comprend qu'elles ne vont pas nécessairement se revoir, en tout cas qu'elles vont s'éloigner petit à petit. Donc, je vais commencer donc, avec la première piste analytique. Donc, Mothers and Daughters, c'est le titre de travail du premier scénario qu'a écrit Greta Garwick pour son film, avant qu'elle le renomme Lady Bird. Très intéressant, puisqu'en fait, la colonne vertébrale de Lady Bird, c'est la relation entre Lady Bird, Christine, et sa mère, Marion. Donc, cette relation mère-fille assez tumultueuse, pleine d'amour et pleine de tout, quoi, et d'angoisse, beaucoup. Et donc, avec cette articulation vient cette question. Donc, comme on peut se demander avec La Nuit des Femmes, peut-on qualifier Lady Bird de film de femmes ? Est-ce qu'un film qui traite de rapports entre femmes s'adresse nécessairement à un public féminin ? Bon, je dis ça parce que, en tout cas, à Hollywood, il y a cette tradition des women's films, en fait, depuis les années 30, même avant. Ça dit souvent des mélodrames qui sont des films qui parlent des choses concrètes de la vie, quoi. D'ailleurs, on a parlé d'Aida Lupino ce matin. Les films d'Aida Lupino ont pu être considérés comme des women's films. Donc, c'est assez ambivalent comme définition, comme étiquette. On peut vraiment ouvrir un débat autour de ça. Hein. Et je voulais parler d'un film qui n'est pas un teen movie, mais qui est un film qui a vraiment, à mon avis, très fortement inspiré Greta Garwick, qui s'appelle Tendre Passion, en anglais Terms of Endearment, de James Brooks, qui date de 1983. Pourquoi je vous dis ça ? C'est qu'en fait, en France, il reste assez confidentiel, mais aux États-Unis, ce film est très célèbre. Et il a eu beaucoup de succès à son époque. Il a eu plusieurs Oscars qui ont été décernés au film, notamment à l'interprétation de Shirley MacLaine, qui est une actrice qui a commencé à jouer à Hollywood dans les années 50 et qui, jusqu'en 1983, n'avait pas eu d'Oscar. Alors que c'est vraiment une actrice fabuleuse. Donc c'est très très probable que Garwick ait puisé consciemment, je pense plutôt consciemment d'ailleurs, hein, dans ce film. Pourquoi je vous dis ça ? Déjà, c'est la question du film de femme colle à la peau de Tendre Passion. Vous le voyez très bien sur l'affiche. Si on s'arrête qu'à cette affiche qui encore reste assez sobre, on comprend une mère et sa fille, et puis cette signature manuscrite avec des XXX, et on se dit, bon d'accord, ça va être un mélodrame un mélodrame dégoulinant, années 80, tout ça, et en fait, pas du tout. Et c'est un film qui met en scène justement des tranches de vie qui s'étalent sur plusieurs décennies. Et ce sont que des tranches de vie à plusieurs âges, et ce sont les mêmes actrices qui jouent les mêmes interprètes qui jouent les rôles, peu importe les âges, et qui est vraiment ancré dans le réel, quoi. Et qui est. Alors oui, c'est un film de son temps, mais c'est un film quand même assez. Assez surprenant quand on le découvre. Voilà, film de son temps, Tendre Passion, et qui traite donc des rapports conflictuels, en tout cas compliqués, entre une mère et sa fille. Donc la mère, c'est Aurore Greenway, Shirley MacLaine, et sa fille Emma, qui est jouée par Debra Winger. Gerwig aussi, elle explore le lien ténu que partagent une mère et sa fille, surtout à l'âge critique qui est l'adolescence. Comment, en tant qu'adolescente, on essaie de se resituer par rapport à ses parents, de trouver qui on est, d'exister en tant qu'adulte en devenir, quoi. Et donc, c'est un âge assez, assez critique. L'ouverture de Lady Bird, ce sont des plans très tendres de Marion et de Christine, Lady Bird, qui sont en voyage, donc reviennent de visite d'université. Et on comprend tout l'amour et toute la tendresse qu'il y a entre les deux. Alors que pendant tout le film, après, il va y avoir plein de dialogues en apparence insignifiants comme ça, mais qui produisent beaucoup de sens, quoi, et qui... et qui illustre ce conflit entre les deux. Avant de continuer, on va regarder une première scène de Tendre Passion, qui est un dialogue entre Aurore et Emma. Alors, malheureusement, je ne peux pas vous mettre plus de scènes du film, mais il y en a plusieurs qui se répondent. Bon, on est vraiment au tout début du film. Emma est adolescente. Elle est avec sa meilleure amie. Ça aussi, la relation entre Emma et sa meilleure amie dans Tendre Passion a sûrement beaucoup influé sur Gerwig. Bon voilà, Emma s'apprête à épouser, à se marier à un universitaire sans grande ambition qui est joué par Jeff Daniels. Et elle fume un joint avec sa copine dans sa chambre et elle papote. Et voilà. Scène de dialogue cristallise vraiment les tensions entre les deux personnages. En même temps, la tendresse et la pertinence de ce que lui dit sa mère à ce moment-là, sachant qu'elle est vraiment, elle sort du lycée, quoi. Donc, pour le coup, elle ne va pas à la fac et elle épouse un universitaire qui consacre toute sa vie aux études supérieures. Ce que dit Aurore à Emma, c'est qu'elle n'est pas assez spéciale pour surmonter un mauvais mariage. Et on retrouve ça dans Lady Bird, on retrouve ce discours de Marion qui... pas seulement, en fait, de Lady Bird qui se frotte au fait qu'elle n'est pas si spéciale qu'elle l'imaginerait. Et qu'elle a, voilà, elle n'est pas brillante dans toutes les matières. Enfin, c'est ce que lui dit sa directrice, etc. Bon, il est question de ce fameux passage à l'âge adulte et aussi de se rendre compte de ses forces et de ses faiblesses. Il y a vraiment, je vous conseille de regarder le film dans son entièreté, de le confronter à Lady Bird, parce qu'il y a vraiment de quoi en tirer une analyse assez riche. La figure maternelle dans Lady Bird, elle adopte des caractéristiques qu'on attacherait plutôt au père dans une famille traditionnelle, à savoir que d'une part, c'est elle qui détient l'autorité, et puis en plus, elle a des difficultés à exprimer clairement ses émotions. C'est le cas dans Tendre Passion, puisque c'est une mère célibataire. Je ne dirais pas de Marion que c'est une mère célibataire dans Lady Bird, mais le père est absent quand même, en tout cas émotionnellement. On comprend pourquoi, puisqu'il est en dépression. Donc il se traîne dans cette maison. C'est une présence, mais c'est une présence spectrale, quoi. Ce père, donc, il est métaphoriquement absent dans Lady Bird. Il est au chômage, on l'apprend. Il est presque effacé. Il y a ce plan qui est quand même très construit, comme tous les plans de Lady Bird. D'ailleurs, Greta Gerwig, elle a conçu sa photographie comme... elle voulait mettre en scène comme des triptyques médiévaux, des plans qui étaient construits presque des fois assez statiques. Je pense à la fin du film, quand Lady Bird sort de l'épicerie où elle a acheté donc, son magazine, ses cigarettes et son ticket à gratter, qu'elle est adossée au mur comme ça. Et donc, ce plan en question raconte tout, puisque donc à la gauche du cadre, Lady Bird, et à la droite, sa mère qui s'affrontent. Au milieu, pendant que sa mère la réprimande, puisqu'elle elle vient de se faire virer de son lycée, le père ne réagit pas et continue à jouer au solitaire sur son ordinateur. Donc c'est un plan assez, assez marquant. Le père de Lady Bird, lui, devient le confident. C'est vers lui que l'adolescente se tourne pour, sans crainte, en fait, pour un petit peu plus s'épancher sur ses émotions. C'est lui qui la soutient dans sa demande de, sa candidature à l'université. Et c'est avec lui qu'elle, il la soutient jusqu'au bout dans cette démarche. Bon, d'ailleurs, c'est presque une mutinerie quand même au sein du foyer, puisqu'elle n'en parle même pas à son épouse. Passons. Mais en tout cas, à la fin du film, il y a ce dialogue très beau où Lady Bird demande à son père si sa mère la déteste, et puis il n'a pas de réponse très précise. D'ailleurs, il contourne un peu le sujet en lui disant qu'elles ont tous les deux des sacrés tempéraments. Donc le film s'articule autour de cette problématique, à savoir la relation conflictuelle entre l'adolescente et sa mère, et se résout, cette problématique se résout à la fin du film. C'est l'histoire, le sujet de la dernière séquence où Lady Bird laisse un message vocal à ses parents et elle parvient à dire à sa mère qu'elle l'aime et qu'elle l'estime, en fait, qu'elle la remercie pour tout ce qu'elle a fait pour elle. Ouais, cette très belle scène aussi où elle lit toutes les lettres inachevées de sa mère qui sont des déclarations d'amour, quoi. Ce qui pèse pas mal dans la balance de ce conflit familial, c'est la question de la précarisation et de l'érosion de la classe moyenne. Donc, en fait, cette question de précarité, elle vient infiltrer l'équilibre familial même. Dans Tendre Passion, Emma est exposée à la précarité puisque c'est une mère au foyer qui essaie de joindre les deux bouts. Il y a même une scène assez humiliante où elle est à la caisse d'un supermarché. Elle n'a pas assez de monnaie pour payer ses courses. Et la caissière lui répond à haute voix. Enfin, elle l'humilie devant tout le monde. Donc c'est Tendre Passion et Lady Bird mettent en scène la désillusion face à la réalité. Face à la dureté du monde, à la dureté du monde. Dans Lady Bird, je vous disais, donc ça participe à créer des tensions au sein de la famille et notamment dans la dynamique mère-fille. Donc il y a plusieurs scènes, notamment la scène de la friperie où on comprend que cette famille ne s'habille que en seconde main, sachant qu'à l'époque, c'était quand même pas à la mode comme ça peut l'être aujourd'hui. C'est vraiment un marqueur de pauvreté de s'habiller en fripe en 2003. Et il y a aussi la scène du supermarché où, au détour d'un dialogue, la mère de Lady Bird lui fait comprendre qu'elle ne peut pas lui acheter un magazine. Donc, si elle a envie de le lire, elle le lit à la bibliothèque. Et puis, que lire un magazine sur son lit, c'est un truc de riche. Et on n'est pas riche. Et tout ça nous amène à la question des rapports de classe dans Lady Bird, qui est quand même le fil principal du récit, en dehors du rapport mère-fille, et qui influe le récit dans tous ses aspects, en tout cas pas simplement les interactions entre Marion et Lady Bird. Bon, d'abord, le film s'ouvre quand même littéralement sur la fin d'un enregistrement audio des Raisins de la Colère. Bon, si vous connaissez un petit peu donc le livre de John Steinbeck qui a été adapté au cinéma par John Ford, c'est quand même un récit qui parle de la Grande Dépression aux États-Unis. C'est pas anodin de la part de Greta Gerwig de démarrer son film sur cette citation directe aux Raisins de la Colère. La famille de Lady Bird doit se serrer la ceinture pendant tout le film. Donc il y a cette fameuse scène de Noël. Où Marion offre des chaussettes thermiques à sa famille. Bon, voilà. C'est tourné un petit peu en dérision. Et donc, cette question de rapport des classes, je voulais faire un pas de côté et parler d'un film qui s'appelle La Bande des Quatre, un titre français assez minable, mais en anglais, c'est Breaking Away, de Peter Yates, qui date de 1979, qui est un très beau film, facilement trouvable aussi, qui a été ressorti il y a quelques années. Breaking Away, donc, qui met en scène quatre amis, donc Dave, Mike, Cyril et Mutcher, quatre adolescents qui habitent dans une petite ville de l'Indiana qui s'appelle Bloomington, qui est une ville ouvrière aux abords d'un grand campus universitaire. Donc eux, ces quatre amis, ils appartiennent à la classe ouvrière des locaux. Leur père travaillait dans l'usine qui coupait des pierres pour construire tous les édifices et notamment pour bâtir le campus universitaire. Et cette classe ouvrière, on la surnomme à cause de ça les cutters, donc les coupeurs de pierres. Et cette classe des cutters, elle est constamment moquée dans le film. Tout le récit se déroule pendant l'été, donc à la fin du lycée et avant la potentielle entrée à l'université. Or, bon, ben, aucun de ces quatre amis ne se destine à l'université. Ces amis donc, passent le plus clair de leur temps à traîner et à nager dans les carrières abandonnées. Donc, il y a des décors saisissants de carrières de pierre abandonnées et sans but précis. Voilà, donc c'est vraiment l'errance de cette adolescence de la classe ouvrière. Sauf que Dave, que vous voyez ici avec son t-shirt jaune et son vélo, est féru de cyclisme et veut s'inscrire à un concours qui lui permettrait d'avoir une place justement à la fac. Et tous ses amis vont le soutenir dans cet effort. Donc ça va venir dynamiser la relation amicale. Et ça, je dirais même que c'est électrisant, quoi. Ça va électrifier... le récit. Donc, c'est sous cette impulsion que tout change, enfin que la courbe change, on va dire, et qu'il y a c'est une manière d'échapper au déterminisme social. Et donc, je vous raconte tout ça, mais en fait, ça reste un film sur l'adolescence. Enfin, c'est pas du tout un manifeste lourd, au contraire. Hein, donc, si vous l'avez jamais vu, je vous le conseille très fortement. C'est un film qui est filmé sous forme de chronique, donc avec pareil des scènes, des tranches de vie qui s'enchaînent comme ça. Voilà, film vraiment remarquable, avec une photographie, pas crépusculaire, mais assez baignée de la lumière du soleil couchant, un peu comme dans Lady Bird. On va regarder un extrait de Breaking Away, qui est assez court et qui est un monologue. Qui est un monologue de Mike, et donc il cristallise cette question de rapport de classe, puisque je n'ai pas mentionné, mais donc il y a d'un côté, il y a une frontière symbolique et réelle entre Bloomington, la ville des ouvriers, et le campus universitaire, avec tous ces étudiants de familles plutôt aisées qui ont les moyens de faire des études supérieures, qui viennent sur le campus et qui méprisent ce qu'ils appellent les cutters. Scène assez brève, mais monologue chargé de sens. Dans Breaking Away, que je ne peux que vous conseiller de regarder et donc de mettre en perspective avec Lady Bird, puisque les deux films sont construits sur la même problématique des rapports de classe et de comment on vit son adolescence quand on est issu de classes modestes. Surtout aux États-Unis où les disparités entre les classes sociales sont très marquées. Et Lady Bird, elle l'étudie. À la sueur du front de ses parents. Elle étudie dans un établissement privé catholique qui est fréquenté par des jeunes de bonne famille. Donc elle vit d'autant plus ce contraste social au quotidien. Et elle a un complexe de classe, vraiment intériorisé, où elle souhaite tout sauf appartenir à la classe, à cette classe modeste, voire pauvre. Je ne sais pas s'ils sont vraiment pauvres, mais en tout cas, c'est une classe moyenne en érosion, quoi. Et donc, quand elle fréquente Danny, qui lui est vraiment issu d'une très bonne famille, Danny, la première fois qu'il vient chez elle, dit à sa mère, c'est une scène assez difficile, il lui dit « Lady Bird parle du mauvais côté de la voix ». Pour moi, c'était une métaphore. Donc là, il y a un plan sur le visage de Marion qui se décompose et qui comprend comment sa fille parle de son milieu aussi en dehors de la maison. Mais il y a vraiment une voie ferrée. Il y a vraiment une frontière physique, pas seulement symbolique. D'ailleurs, plus tard dans le film, Lady Bird, elle mentira à ses nouveaux amis sur son origine sociale. Elle va vraiment pas du tout assumer d'où elle vient, jusqu'à ce que Jenny, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, je ne sais plus comment s'appelle son... Jenna, voilà, qui est issue d'une famille riche, vienne chez elle et c'est même plus un sujet, c'est-à-dire qu'elle l'accepte telle qu'elle est, et puis ça entrave pas plus que ça leur relation. Il se trouve que la maison sur laquelle fantasme Lady Bird dans le film, cette grande maison bleue qui est sa maison préférée du quartier, appartient à la grand-mère de Danny, donc elle peut y rentrer. On voit déjà à la présence d'un drapeau américain sur le porche, hein, on se doute de l'orientation politique de la famille. Et puis quand elle rentre dans la maison, elle rigole avec Danny du fait qu'elle voit une affiche de Ronald Reagan. Évidemment que ces familles, sont d'ascendance républicaine, on comprend que le fossé se creuse entre les familles pauvres et les familles riches. Voilà. De plus, par rapport à Lady Bird, ouais, c'est vraiment un thème prédominant au film, sachant que son père est sans emploi, qu'il est au chômage, il y a ce dialogue assez fort dans la chambre de Lady Bird où sa mère lui dit que c'est de sa responsabilité de se tenir à carreau pour le bien de sa famille. C'est-à-dire que l'adolescente prend conscience de son image, de ce qu'elle renvoie et de ses responsabilités. Elle lui dit « ton père est sans emploi » et qu'en fait, les pères de ses camarades pourraient être les futurs employeurs de son père. Et elle lui dit texto « mais ils ne le feront pas si on a l'air de clochard ». C'est un dialogue assez dur. Donc en fait, d'un côté, Lady Bird, forcément, est adolescente. Donc elle est, elle se projette, elle fantasme beaucoup, elle essaie de se définir. Et de l'autre, sa mère est beaucoup trop franche. Ne la laisse pas assez rêver, quoi. Ne lui laisse pas assez de marge de manœuvre pour se projeter tout en restant réaliste. Et donc cet équilibre, elle arrive à le trouver toute seule à la fin du film en ayant son emploi saisonnier, en passant son permis de conduire, et puis donc en s'autonomisant à la fin du film. Donc il y a ce discours très ambivalent de sa mère, qui à la fois la rappelle à l'ordre par rapport à leurs conditions, et en même temps lui dit que l'argent ne permet pas de tout mesurer, que l'argent ne fait pas le bonheur. Ça ne veut pas dire que parce qu'on a de l'argent, on est heureux. J'en viens à la thématique des teen movies, puisque Lady Bird, c'est un film qui emprunte au genre du teen movie. Donc on en a parlé ensemble. Le teen movie, c'est un genre américain qui a émergé dans les années 50, on peut dire, comme la culture adolescente dans le monde entier, au moment où les jeunes ont eu un certain pouvoir d'achat et donc sont devenus une cible potentielle pour tous les annonceurs. Donc ça part quand même de là, hein, la culture adolescente. Et puis ensuite aussi, c'est une manière de considérer l'adolescence en tant qu'âge défini. C'est-à-dire qu'on ne passe, de considérer qu'on ne passe pas simplement de l'enfance à l'âge adulte et qu'il y a un intermédiaire entre les deux. Donc un des premiers teen movies, hein, c'est La Fureur de Vivre avec James Dean, qui met en scène le mal-être adolescent et cette difficulté à se positionner au sein de sa famille et au sein de la société, avec en plus une problématique sexuelle dans La Fureur de Vivre, hein, qui est un film assez moderne encore aujourd'hui. Et donc, pour revenir à Lady Bird, Greta Gerwig, elle joue de ces codes qui datent des années 50 aux États-Unis. Il y a eu un âge d'or du teen movie dans les années 80. Il y a eu un deuxième âge d'or à la fin des années 90-2000. Et puis, on peut dire un troisième à la fin des années 2010 à peu près, avec plein de séries sur les plateformes destinées à un public adolescent, Sex Education en particulier, il y a eu vraiment plein de contenus produits pour les adolescents, donc un renouveau du genre. Quiconque a déjà vu un teen movie reconnaîtra ses archétypes, donc déjà les décors fétiches, les décors fétiches, les casiers à perte de vue des lycées américains, le stade, et puis les rituels, le bal de promo, la remise de diplôme, les archétypes donc, hein, les mean girls, ce qu'on appelle les mean girls, les jeunes filles riches et populaires, le poète anticonformiste, les weirdos, donc les bizarres, catégorie à laquelle pourrait appartenir plutôt Lady Bird, ou la rebelle, je dirais, c'est plutôt une rebelle. Malgré ça, Gerwig, elle évite tous les écueils du teen movie. Justement, elle ne cherche pas du tout à créer des archétypes. Par exemple, elle ne crée pas de rivalité entre Jenna, la fille populaire, et Lady Bird, même après la révélation du mensonge de Lady Bird. Et donc, en ça, par le fait qu'elle ne veut pas créer d'archétype, elle s'inscrit dans la tradition de John Hughes, qui est un cinéaste américain donc, qui a lancé, on peut dire, vraiment la mode des teen movies dans les années 80, avec des films notamment comme Breakfast Club, qui est peut-être le teen movie des teen movies, qui met en scène 5 adolescents, si je ne me trompe pas, autant d'archétypes d'adolescents qui se retrouvent dans un lycée un samedi matin pour faire des heures de colle. Donc il y a la fille à papa populaire qui est jouée par Molly Ringwald, le rebelle, la fille bizarre, le sportif et la tête d'ampoule. Voilà. Et sauf que ce que fait John Hughes pendant tout le film, c'est justement de déconstruire ces archétypes en fait et de les confronter à, plutôt à ce qu'ils sont à l'intérieur et à comment ils interagissent les uns avec les autres. Enfin, c'est un film très fort qui a qui était à Lycée au cinéma, donc vous avez peut-être travaillé dessus déjà, donc je vous apprends pas grand-chose finalement. John Hughes, qui a réalisé d'autres teen movies avec son actrice fétiche, Molly Ringwald, et qui a scénarisé celui-là, il ne l'a pas réalisé, il s'appelle Rose Bonbon. Et Rose Bonbon, c'est une des matrices de Lady Bird, un film qui est sorti en 86. Pourquoi c'est une matrice? Parce qu'en fait, la question des rapports de classe est au centre du récit, sachant que l'héroïne jouée, enfin Andy, qui est jouée par Molly Ringwald, c'est une lycéenne qui a pris son indépendance puisqu'elle habite toute seule. Elle travaille chez un disquaire, tout ça pour soutenir son père. Au lycée, elle critique la clique des riches et malgré ça, en fait, elle va tomber sous le charme de l'un d'eux qui s'appelle Blaine, qui est joué par Andrew McCarthy, qui est à la gauche de l'image. Et donc, ça va questionner le déterminisme social, le fait qu'elle s'éprenne de lui. Donc, à sa droite, c'est son meilleur ami, qui est Ducky, qui est un drôle de personnage, vraiment. C'est rockabilly, très stylé. C'est un film vraiment très stylé, hein, Rose Bonbon, avec des costumes pas possibles. Il y a aussi l'antagoniste du film qui est joué par James Spader. Donc, c'est un personnage qui s'appelle Jeff, qui est vraiment hautain, avec sa permanente très années 80, et qui est le garçon riche, imbu de lui-même, qui arrive en décapotable au lycée. Bon, voilà. Vous avez le tableau. Et ces adolescents riches et imbus d'eux-mêmes, on en retrouve dans Lady Bird, et je pense que l'exemple le plus concret, c'est celui de Kyle, qui se veut poète maudit, mais qui est en fait bon fils à papa, quoi, et qui a tout le loisir de se poser ses questions existentielles, puisqu'il n'a pas de réelle problématique d'argent dans sa vie. Et Rose Bonbon, se conclut sur une scène de bal de promo. Enfin, en tout cas, c'est le climax du film, le bal de promo, où Andy confectionne elle-même sa robe. Donc, il y a cet aspect DIY de la robe rose, et donc se réapproprie sa féminité aussi avec la couleur rose, de la même sorte que Lady Bird avec sa robe trouvée en fripe. Et s'affiche au bras de son meilleur ami, Ducky. Comme dans Lady Bird, avec cette compagne de bal de promo, la meilleure amie de Lady Bird. Sachant que le bal de promo dans un teen movie américain, c'est vraiment le rituel, le rite de passage entre vraiment l'adolescence et l'âge adulte. C'est la scène où l'on s'affirme tel qu'on est. Voilà, c'est le dernier événement festif du lycée avant, comme vous dites, la vraie vie, l'entrée dans la vraie vie. Bon, on ne va pas avoir le temps de regarder de scènes de Rose Bonbon. On va enchaîner sur le reste. Mais dans Rose Bonbon, Molly Ringwald, donc Andy, je voulais m'attarder un peu sur sa chambre et sur les chambres d'adolescents au cinéma, sur ce décor récurrent. Et elle fait de sa chambre son antre. C'est un espace presque utérin, tout rose, avec de la dentelle, des tissus, des chutes de tissus, des patrons, des dessins, ça représente tout son univers mental, c'est un espace protecteur, c'est un décor très important dans le film, de la même sorte que dans Lady Bird, la chambre de Lady Bird, qu'on voit pas tant que ça non plus, est un, un décor déterminant qui nous aide beaucoup à comprendre le personnage, en fait. Qui est... On comprend qu'elle se situe entre l'enfance et... Enfin, qu'il y a quelque chose d'enfantin avec ce mur rose et des petites loupiottes. Et, enfin, c'est un décor très, très féminin, très girly. Et en même temps, sur les murs, des citations, des paroles de chansons, des affiches. C'est une chambre très bariolée, avec une saturation d'informations quoi, dans le décor. Et c'est son antre, hein, c'est son espace le plus intime. La chambre d'ado, c'est là où l'ado se construit, en fait, et développe son intériorité, réfléchit à sa place dans le monde, dans la société. C'est là qu'on voit à quelle famille d'adolescents les chambres appartiennent. Donc là, c'est une chambre un petit peu entre deux. Et c'est à une exception près où sa mère se rend dans sa chambre, mais c'est pour une conversation assez tendue. C'est surtout son papa qui a le droit de pénétrer cet espace et en tout cas qui a le droit d'y entrer, d'avoir des conversations, de parler d'émotions, d'être dans la confidence comme on l'a vu un petit peu plus tôt. Voilà, c'est lui qui vient lui amener son gâteau d'anniversaire au lit. Voilà, un petit parallèle entre Rose Bonbon et cet espace où on se construit et Lady Bird. Donc un autre exemple, un autre plan où on a un petit peu plus accès au décor à proprement parler. Donc voilà, c'est une piste que je lance, mais je pense qu'il y a de quoi faire sur les chambres d'ados au cinéma. Voilà, j'ai fait un autre parallèle avec un film de Sofia Coppola, donc Virgin Suicides, où la maison, en l'occurrence la chambre, devient carrément une prison, puisque les sœurs Lisbonne sont séquestrées par leurs parents, qui sont encore plus angoissées que Marion dans Lady Bird. Hein. Vraiment, pour le coup, c'est névrotique dans Virgin Suicides. Et malheureusement, c'est cette peur du monde extérieur de la part de leurs parents qui court à la perte de leur fille. Je ne sais pas... Si vous avez vu Virgin Suicides, c'est quand même un film assez célèbre. Nous, on va parler d'un film du père de Sofia Coppola, donc de Francis Coppola. Bon, j'ai mis cette citation qui m'amusait beaucoup. Donc, c'est pas trop rose, dit Marion à sa fille qui essaye sa robe de bal de promo. Le rose étant très connoté et en plus connoté plutôt enfantin. Enfin, je pense que c'est une couleur qui est rattachée à l'enfance, à ce monde de l'enfance. C'est hier qu'un enseignant faisait la réflexion de l'utilisation du rose et du bleu dans le film et que le bleu, c'est la couleur de la blouse de Marion qui correspond peut-être plutôt au monde adulte, aux réalités concrètes de la vie, en fait. Et à la fin du film, Lady Bird, elle est habillée en ocre, donc ni en bleu, ni en rose. Ouais, c'est pas trop rose. Bah, quand même, Greta Gerwig, elle a réalisé Barbie, donc on peut pas faire plus rose que ce film. D'ailleurs, elle en joue. Hein, ça fait l'objet de plusieurs blagues, hein, que ce soit les costumes ou les décors du film. Hein. C'est un film existentiel, puisque le personnage de Barbie se rend compte des disparités de la société dans laquelle elle évolue. Voilà. Un film assez fin, mais bon, sur lequel, personnellement, je... Voilà, donc je ne suis pas très adepte, je pense que c'est un film très capitaliste quand même, et que Gerwig, c'est comme, moi je considère qu'elle s'est un petit peu vendue quoi, pour Hollywood. Et bon. Écoutez, c'est comme ça. Toujours est-il que dans Lady Bird, une fois qu'elle, à l'issue de cet été où elle se responsabilise, quand elle apprend qu'elle va à l'université, elle décide de repeindre en blanc les murs de sa chambre, donc de faire table rase de cette période, de tout se passer. Enfin, c'est une image assez triste, je trouve. Et toujours dans la continuité des chambres d'adolescentes, d'adolescents, on peut aussi ouvrir sur une analyse de photographie, et donc du travail d'une photographe qui s'appelle Adrienne Salinger, qui a beaucoup travaillé avec les adolescents. Et qui a commencé à photographier des adolescents dans leur chambre à partir des années 80 jusqu'au début des années 90, qui a publié un ouvrage en 1995, chaque photographie étant accompagnée d'un petit entretien. Donc en fait, elle ne rentrait pas comme ça par hasard. Enfin, en tout cas, c'est plus de l'ordre du reportage. Elle allait, elle demandait des, enfin voilà, les adolescents se livraient assez facilement sur leur intimité, ce qui les tracassait, etc. Bon, je vous ai mis quelques exemples de ces chambres d'adolescents. C'est encore plus évocateur quand on en voit plusieurs à la suite, parce qu'en fait, on arrive à remarquer des modes. C'est des photographies qui sont atemporelles dans leur démarche, en même temps assez datées aussi, puisque bon, celle-ci encore, ça va, mais on peut voir les artistes à la mode, les posters sur le mur, la manière dont les ados sont habillés et comment en fait se distinguer, c'est essayer de se distinguer, c'est appartenir à une classe, quoi. Enfin, c'est forcément appartenir à une famille, appartenir à... Donc c'est comment trouver sa place dans le monde et comment se ranger d'un côté ou d'un autre. C'est-à-dire que quand on est adolescent, on essaie d'être singulier, mais en fait, on est dans le mimétisme, quoi. C'est un travail très, très intéressant, des très belles photographies. Vous voyez, hein, c'est vraiment... celle-ci est beaucoup plus datée, je trouve, que la précédente. Il y a une mélancolie qui se détache des expressions des ados, sachant qu'elle prenait pas plus de 2 clichés à chaque fois. Et elle redoutait, justement, elle essayait de faire en sorte qu'ils ne posent pas et d'avoir accès à leur intériorité sur les photographies. Voilà une dernière qui, je trouve, raconte beaucoup aussi du paradoxe adolescent, en fait, et du fait qu'on est quand même beaucoup rattaché à l'enfance encore. Qu'on est encore des grands bébés quand on est ado. Enfin, on essaie d'être adulte, mais bon, ça, c'est au cœur de Lady Bird aussi. Hein. D'ailleurs, Lady Bird, ça veut dire coccinelle. Ça peut vouloir dire aussi Madame Oiseau. Enfin, ouais, je trouve ça oisillon, j'imagine ça. Moi, je trouve ça assez... mignon, en tout cas, comme surnom, enfantin, quoi. Christine, ça fait vraiment prénom d'adulte. Hein. Ça ne fait pas trop prénom d'adolescent, en tout cas, je trouve. Et donc, on va finir sur ça, hein, sur la question du coming of age. Juste pour finir sur Salinger, pardon. C'est un travail qui a été fait avant l'avènement des réseaux sociaux, où maintenant, on a accès à ces espaces intimes, à travers la fenêtre qui est un écran, quoi, d'ordi ou de téléphone. Et maintenant, c'est plus du tout la même réflexion par rapport à ces espaces intimes. On peut justement réfléchir sur où se situe l'intimité aujourd'hui, qu'est-ce que cet espace sacré qu'est la chambre, ces espaces liminaux, donc entre l'adolescence, l'âge adulte. On disait, c'est là où on se définit, c'est là où on se ressource. Ça peut être une réflexion aussi avec les élèves. Comment ça les ramène à, aujourd'hui, leur rapport à leur espace personnel, quoi, à l'époque des réseaux sociaux. Et donc, un récit nostalgique de coming of age. Le coming of age, c'est une notion anglo-saxonne, enfin, ça pourrait vouloir dire venir dans l'âge, en fait, grandir. Ça concerne plutôt des récits comme Breaking Away ou Lady Bird, qui s'intéressent à des personnages qui sont entre l'adolescence et l'âge adulte, et donc qui vont s'affirmer en tant que jeunes adultes. C'est ça, le coming of age. Et donc, dans cette nostalgie, je voulais commencer par un décor récurrent qui est la voiture dans Lady Bird. On peut se demander que symbolise la voiture, de manière générale, au cinéma et dans ce film en particulier. Il y a plusieurs scènes, pas forcément bavardes d'ailleurs. À la fin du film, il y a ce très beau plan où les parents de Lady Bird la conduisent à l'aéroport. Tout le monde est dans ses pensées, on regarde vers l'extérieur. Et donc, c'est un habitacle, l'intérieur de la voiture, donc c'est un espace intérieur, mais qui permet d'avoir accès à l'extérieur tout en étant assez protégé. Donc c'est un habitacle qui permet une intimité, qui peut cristalliser aussi des conflits. Hein. Il y a vraiment plusieurs séquences dans Lady Bird qui se passent à l'intérieur d'une voiture. Et avant tout, la voiture, aux États-Unis, comme partout, mais surtout aux États-Unis, est synonyme de liberté. Donc aux États-Unis, les adolescents peuvent conduire à partir de 16 ans. Donc souvent, tout le temps, sur les lycées américains ont un parking. Donc les ados peuvent venir en voiture à partir de 16 ans. moi, ce qui nous semble assez exotique en France. Mais, et puis voilà, c'est un pays qui est quand même démesuré, donc on a nécessairement besoin de voitures. Et donc c'est cette Amérique des voitures qu'aborde George Lucas dans American Graffiti, et c'est vraiment une référence incontournable du film sur, sur l'adolescence, dont Lady Bird s'est inspirée, dont Lady Bird s'inspire et dans lequel Greta Gerwig a puisé, puis elle le dit elle-même en interview, hein, que, enfin, une de ses références pour le film, c'est American Graffiti. Donc c'est avant que George Lucas réalise Star Wars, hein, il a fait quelques très peu de films autres que Star Wars. Et American Graffiti se situe en 1962, donc 10 ans avant l'époque à laquelle il est sorti. Donc c'est un film réflexif. Ouais, plutôt nostalgique, je dirais, même si derrière cette nostalgie se construit un discours assez critique sur ce début des années 60. Et l'élément récurrent dans le film, c'est la voiture, puisque tous ces adolescents se déplacent en voiture et interagissent socialement sur la route, en fait. Ils sont dans une forme d'ennui, comme ça, et font des allers-retours en voiture, se parlent, rigolent, draguent, etc. Et dans ce film, donc, la voiture, c'est une interface avec le monde. Donc, c'est une zone intermédiaire entre l'intérieur et l'extérieur. Et ce que George Lucas met en scène dans son film, c'est cette Americana, des drive-in, des belles voitures. Et derrière ça se cache une réalité qui est beaucoup plus morne, à savoir l'ennui de la jeunesse, voire morbide, le spectre du Vietnam, quand même, puisque certains personnages sont destinés à partir au front. C'est d'ailleurs tout l'objet de la fin du film qui est sur un tarmac d'aéroport. Hein. Certains d'entre eux partent à l'armée. Et puis enfin, il met en scène des trajectoires inégales, puisque voilà, certains vont partir à l'université et d'autres pas. Qui aura les moyens de partir à l'université? Bon, là, c'était Harrison Ford, vous l'aurez reconnu, dans American Graffiti. Voilà cette Amérique des drive-in que met en scène aussi Greta Gerwig avec, vous avez vu, tous ces plans néons à la fin de Lady Bird, ces plans de Sacramento, avec ces espaces figés dans le temps, un peu carte postale. Et avant de continuer, de finir sur Peggy Sue, les parents de Lady Bird, en fait, sont assez âgé, dans le sens où on comprend, donc sa mère lui dit dans une lettre qu'elle l'a eue à 42 ans, c'est une grossesse inespérée. Le récit se déroulant en 2003, on comprend que eux appartiennent à la génération qui est mise en scène dans American Graffiti. En fait, donc ils appartiennent à cette génération désillusionnée de baby boomers qui ont constaté au fur et à mesure de leur vie qu'ils ont été bernés par le mirage du rêve américain. Et donc ils ont abandonné peu à peu leurs idéaux potentiellement hippies, puisque cette jeunesse des années 60, à la fin de la décennie, donc, se mobilise notamment contre la guerre du Vietnam. Et peu à peu, ils se fondent dans la masse des travailleurs, notamment en passant le cap des années 80 et de la présidence de Ronald Reagan. Donc c'est quand même un sacré clin d'œil de mettre un portrait de Reagan dans la maison républicaine de la grand-mère de Danny. Le père de Christine, lui, il est terrassé par cette réalité, par la pression qu'impose le système capitaliste, pendant que certains s'enrichissent, hein, d'autres se précarisent. Donc d'autres perdent au change de ce rêve américain qui est inégal, en fait. Donc cette génération de baby-boomers, c'est celle qui est mise en scène aussi dans Peggy Sue s'est mariée de Francis Coppola, qui date de 86, qui est sortie la même année que Rose Bonbon. Un an après Retour vers le futur, et on peut dire que ce sont deux films cousins, Retour vers le futur et Peggy Sue. Autre film cousin de Peggy Sue, c'est son remake français qui est Camille Redouble, si vous l'avez déjà vu. Qui joue beaucoup plus sur la veine comique que le film de Coppola. Et donc Retour vers le futur, c'est une histoire de science-fiction, de voyage dans le temps, et donc un adolescent, Marty McFly, à l'aide d'une voiture, d'une DeLorean, qui est un... voyage dans le temps et se retrouve propulsé dans les années 50 dans le lycée que fréquentent ses parents qui sont ados et qui vont se rencontrer et tout ça. Et tout l'enjeu du film, c'est que... D'ailleurs, c'est très bizarre, c'est très oedipien, mais qu'en fait, il doit faire en sorte que ses parents se mettent ensemble pour qu'il l'ait, quoi, et pour que lui existe. C'est vraiment vertigineux, le principe de retour vers le futur. Film assez nostalgique et en même temps pas trop, donc en creux, qui va raconter certaines inégalités raciales, de sexe, etc. Film plus subtil qu'il n'y paraît, Retour vers le futur, et qui joue sur cette nostalgie des années 50. Et de la même sorte, Peggy Sue, donc là ça sera fait de manière quand même plus évidente, revient comme sur cette période des années 50, et c'est un film donc, de voyage temporel, c'est un teen movie, et qui dans la mise en scène joue sur le souvenir. Et ça m'intéressait parce qu'en fait c'est la démarche de Greta Gerwig, le souvenir, et de s'inspirer de son propre parcours, même si c'est très librement adapté de sa vie. Elle a aussi confié des documents d'époque à ses comédiens, elle leur a fait visiter sa ville natale, Sacramento. Sacramento, c'est la ville où a été tournée Peggy Sue s'est mariée. C'est d'autant plus troublant de confronter les deux films. Bon, de quoi parle Peggy Sue ? Donc, c'est l'histoire de ce fameux personnage qui est joué par Kathleen Turner, qui est une quarantenaire désabusée, qui, pendant une réunion d'anciens camarades de lycée au début du film, s'évanouit, qui est sous le coup de la pression puisqu'elle s'apprête à divorcer de son mari Charlie, qui est joué par Nicolas Cage. Quand même, un film avec Nicolas Cage, ça se boude pas. Elle se retrouve propulsée en 1960, c'est 1960, et elle revit son adolescence. Ce sont les mêmes acteurs, hein, comme dans Camille Redouble, c'est les mêmes acteurs qui jouent des ados, donc c'est assez marrant. Et puis c'est vraiment tous les rituels adolescents. Il y a aussi Jim Carrey, j'ai oublié de mentionner ça. Et pendant un moment, elle flirte avec un certain Michael, que voici, qui est le lointain cousin de Kyle, hein, le poète, ici poète de la Beat Generation, un peu maudit, Et donc pour Lady Bird, aussi, c'est un voyage temporel. Hein, et d'ailleurs, la mise en scène, c'est forcément un voyage temporel. En tout cas, ce que fait Greta Gerwig avec son film, en s'inspirant de ses souvenirs et en adoptant un regard méditatif comme Coppola, en fait, elle déroule son film comme un songe. Il y a cet esprit, même dans le montage, d'ellipse. Pareil dans Peggy Sue, hein, c'est un récit très intime qui est construit donc, sur la subjectivité de Peggy et qui est construit à partir de ce qu'elle sait de son futur, et de son présent, du coup, tout se brouille. Et son attitude vis-à-vis des événements et des personnages et colorée par ce qu'elle sait, notamment son attitude vis-à-vis de Charlie, est assez amère. On va regarder un extrait du film où Peggy revient dans sa maison d'enfance. Vous y vous comprendre, hein, c'est une scène très mélodique et construite avec des mouvements de caméra très fluides, notamment la caméra qui tourne autour de la chambre très rapidement, comme si c'est quelque chose qui saisissait Peggy, qui reparcourt des espaces mentaux, en fait, et ses propres souvenirs. Donc, à la fin de Lady Bird, Gerwig, elle adopte un ton assez similaire. Donc, c'est pas forcément à la fin, cette scène-là, mais il y a plusieurs capsules de vie qui sont déjà nostalgiques de leur traitement, notamment... cette réunion pour la nouvelle année, pour fêter l'année 2003 en famille. Dans certains plans, on peut penser à l'influence de Coppola, donc de Francis Coppola. D'ailleurs, c'est sa fille, hein, Sofia Coppola, qui apparaît à la fin de l'extrait avec Kathleen Turner. Kathleen Turner, j'avais oublié, qui joue la mère des sœurs Lisbonne dans Virgin Suicides. Donc il y a vraiment une filiation entre Peggy Sue et Virgin Suicides. Et donc, dans ce plan de Lady Bird, on retrouve... c'est un plan qui a déjà une atmosphère fantomatique, qui, on dirait, une vignette, un souvenir lointain, avec cette, ce fantôme qui reste, qui est le père. Le père toujours assis, enfin, assez immobile comme ça, figé dans le décor, comme s'il était fondu dans le mobilier. Et ces plans de Sacramento à la fin du film, qui sont des plans qui embellissent la ville, qui, comme des déclarations d'amour à Sacramento. Et d'ailleurs, c'est ce que dit la directrice de l'école à Lady Bird. Elle lui dit « Vous parlez de Sacramento avec beaucoup d'affection et d'intérêt. On perçoit de l'amour. » Et elle lui dit, Lady Bird lui dit « Oui, mais c'est de l'attention. Oui, mais est-ce que ce ne serait pas ça, l'amour, l'attention ?» Et donc, cette déclaration d'amour à Sacramento, qui se conclut sur ce monologue final où Lady Bird demande à sa mère si elle était émue la première fois qu'elle a conduit dans la ville. Et donc là, je raccroche sur aussi American Graffiti et sur le motif de la voiture dans le film. La voiture comme métaphore de la liberté, surtout pour ce personnage féminin qui est quelque peu enfermé dans l'espace familial, quoi, dans la maison familiale. Et donc voilà, cette nostalgie qu'on comprend, qu'éprouve en creux le personnage de Lady Bird à la fin du film, tandis qu'elle entre dans l'âge adulte. Il y a ces plans flashback où on la voit conduire et regarder vers l'horizon, regarder vers l'ailleurs. C'est un plan qu'on peut mettre en miroir avec certains plans de La Nuit des Femmes, hein, où Kuniko, notamment celui où elle est devant les rails de train. Et voilà, bon, c'était la fin de mon diaporama. Pour conclure sur Lady Bird, si on peut le comparer à La Nuit des Femmes, on peut dire que les deux films, ce sont des films qui mettent en scène une éclosion. Et j'utilise vraiment éclosion puisque ce personnage s'appelle Oiseau. Et ce sont des personnages qui ont un désir d'ailleurs. Et, donc ici, Christine, Lady Bird, elle migre doucement vers l'âge adulte et elle parvient à trouver un équilibre, même s'il est assez chancelant, entre ce qu'elle peut être et ce qu'elle a envie d'être. Et donc Garwig, elle met en scène cet âge flottant de l'adolescence, bon, là où Kuniko, c'est déjà une femme, mais en tout cas, c'est une femme qui se reconstruit, qui doit se redéfinir, et surtout aux yeux d'une société qui ne lui facilite pas la tâche. Et je vais finir sur une citation que je trouve belle de Jacques Mandelbaum, donc dans une critique de Lady Bird pour Le Monde, et on peut appliquer ça aussi à Kuniko. Il dit de Lady Bird qu'elle est tendue tout entière vers le rendez-vous que la vie lui fixe avec elle-même, qui serait déjà une autre. Voilà. Donc merci pour votre attention. Et on va vous transmettre le micro si vous avez quelques réflexions. En fait, elle a commencé à jouer enfant dans, j'oublie le nom de ce film, c'est pas Lovely Bones ou Winter Bones, je les confonds toujours tous les deux. Elle a commencé à jouer enfant et puis voilà, aujourd'hui elle a une carrière assez prolifique. Alors je maîtrise pas franchement la carrière de Saoirse Ronan, mais ouais, c'est une actrice plutôt en vogue à Hollywood, donc qui s'est pas mal épanouie dans le cinéma indépendant. Voilà. Bah, comme Garwig en fait, hein, qui a commencé dans le cinéma indépendant et puis qui a migré au fur et à mesure vers Hollywood et vers des films plus qui s'adressent à un public plus large.
Merci beaucoup Sarah. Merci.